BFM Business présente votre rendez-vous de référence de la fin de journée avec la grande interview des acteurs de l'actualité économique et politique et avec les experts du soir, débat sans concession autour des sujets du jour. Good evening business, Guillaume Paul.
Allez, il est bientôt 18h, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM Business. Dans l'actualité ce soir, on avait envie de tirer un grand coup de chapeau à une pépite française de la tech. C'est Pascal, le champion français du quantique que vous connaissez peut-être, qui vient de trouver un premier client pour l'une de ses machines. On va voir ça dans un instant avec Frédéric Simotel. Sinon, on va parler d'Atos, ça faisait longtemps, parce que apparemment l'offre de reprise de Daniel Kretinsky, en l'état, ne fait pas vraiment recette auprès des créanciers. On va voir ça avec Mathieu Pechberti également dans quelques secondes. On parlera tout ça avec nos experts, bien sûr, qui arrivent dès 18h30, comme tous les soirs sur BFM Business. On parlera aussi avec eux de la nouvelle réforme de l'assurance chômage qui va arriver cette semaine. Ça s'annonce assez tendu avec les syndicats. Et puis, on dira un mot déjà de ce qui va être aussi un temps fort. Et ça, on en parlera toute la semaine, bien sûr. VivaTech, qui commence mercredi du côté de la porte de Versailles à Paris. Voilà le programme. Puis dans 10 minutes, c'est l'économiste Patrick Artus qui sera l'invité d'Eddie Chevrillon dans la grande interview. Bonne soirée, on est ensemble jusqu'à 20h sur BFM Business.
Good evening business, le journal.
Donc c'est un tournant, n'ayons pas peur de le dire, en matière d'informatique quantique, et ça on le droit à une société française qui s'appelle Pascal. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir Guillaume.
Pascal, c'est officiel, va installer, alors pas un ordinateur quantique, mais une première machine quantique chez un premier client, c'est le saoudien Saudi Aramco. Finalement, quand on parle quantique, on se rend compte qu'on parle d'un futur qui est plus si lointain que ça, Frédéric.
Non, c'est exactement ça. Les entreprises et la communauté scientifique se rapprochent de plus en plus et sont en train de vraiment de passer de la R&D à l'adoption. Donc, même si la promesse d'un véritable ordinateur quantique, elle est encore un peu loin, mais en tout cas, tout le monde investit sur ces technologies quantiques. Imaginez, dans les années 2019, on investissait environ 200 millions. Là, on va atteindre 1 milliard d'euros l'année prochaine. Donc, voilà, les investissements sont passés à une vitesse supérieure. Les géants de la tech se battent, les Google, les IBM, les Alibaba. Et puis, les grandes entreprises s'y mettent. Alors, en France, on a des Airbus, Thales, EDF, MDBA. On a le Crédit Agricole CIB. À l'étranger, il y a BMW. Donc, tout le monde s'y met. Ça va servir à quoi? Le chiffrement des données pour sécuriser davantage nos réseaux de télécom. La simulation informatique pour tester des réactions chimiques, ce genre de choses. Et puis, l'optimisation combinatoire pour optimiser la trajectoire d'un satellite, pour optimiser la trajectoire d'un avion, ouais, pour optimiser des réseaux de livraison, aussi une flotte de véhicules de réseaux de livraison. Et donc, lui, Aramco, ça va être pour plusieurs choses. Ça va être, comme ils sont à la fois dans l'énergie et la chimie, tester des réactions chimiques, c'est gérer des raffineries, enfin voilà, gérer leur réseau pétrolier. Et donc, ils se sont dotés de cette machine quantique, alors de 200 qubits. 200 qubits, c'est le qubit, c'est l'unité de mesure voilà, de l'informatique quantique. Alors, ils s'étaient déjà rapprochés en mars 2022. Il y avait une levée de fonds de 100 millions de pascal en janvier 2023. Et Aramco était déjà dans le package. Et puis donc c'est un contrat qui va vraiment donner un coup d'accélérateur, ouais, au quantique français à l'international, et ça tombe bien parce que ça fait partie de nos cinq domaines d'avenir. Ouais.
Ils sont toujours indépendants chez Pascal, ils ne sont pas encore fait racheter.
Non, puis vous savez, dans cofondateur Alain Aspect, prix Nobel de physique notamment, voilà, et donc on a des Candela, on a Alice et Bob qui sont aussi en train de mener leur campagne en signant avec des grands groupes pour justement démocratiser cette utilisation du quantique sur le quel d'ailleurs, pour faire la transition, travaille aussi Atos.
Absolument. Pascal, voilà, donc la pépite française du quantique qui livre sa première machine aux Saoudiens, Saudi Aramco. Merci beaucoup Frédéric. Dans l'actualité ce soir, nous avons le dossier Atos. Vous pouvez rester Frédéric, comme bien souvent. Bonsoir Mathieu Pechberti.
Bonsoir Guillaume.
Oui, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs candidats à la reprise d'Atos. Et là, on entend dire depuis quelques heures que l'offre de Daniel Kretinsky en l'état, cette offre n'aurait pas vraiment la cote, Mathieu, finalement.
Oui, il y a une lettre effectivement des créanciers d'Atos qui a été envoyée à l'administratrice judiciaire Hélène Bourboulou ainsi qu'au ministère de l'économie pour dire que ça ne leur allait pas. Pourquoi ? Parce que les créanciers sont essentiels dans cette restructuration. C'est eux qui vont voter pour l'un ou pour l'autre. Pour l'un, c'est Daniel Kretinsky, ou pour l'autre, c'est David Layani, les deux principaux candidats à la reprise d'Atos. Alors d'autant que ces deux-là vont être, en tout cas, il va y avoir un échange entre eux et les dirigeants d'Atos demain. Il y a une grande journée, on va dire une sorte de grand oral, à la fois des dirigeants d'Atos, mais aussi des potentiels repreneurs. Et en tout cas, ils disent que l'offre de Daniel Kretinsky ne leur convient pas pour le moment. Pourquoi ? Parce qu'ils proposent d'effacer pas moins de 80% de la dette d'Atos.
4 des 5 milliards, en gros.
Voilà, 4 des 5 milliards d'euros de dette d'Atos, alors que David Layani, lui, ne propose n'en effacer, entre guillemets, que 2/3. Donc, on est rentré dans une période là, qui va durer une quinzaine de jours, jusqu'à la date définitive, le 31 mai, pour connaître le repreneur. vous avez un jeu de négociation, donc forcément les créanciers disent à Daniel Kretinsky, votre offre on n'en veut pas en l'état, il faut l'améliorer. Voilà, donc il va y avoir forcément une amélioration de l'offre de Daniel Kretinsky dans les jours à venir pour essayer comme dans une élection finalement, de contenter les créanciers. Et puis on peut estimer que dans quelques jours aussi, les créanciers demanderont également à David Layani d'améliorer son offre. Voilà, tout ceci est un jeu de négociation habituel dans des restructurations. On ne sait pas dans quel sens le vent va tourner.
Et demain le grand oral donc pour les prétendants.
Exactement.
Alors, Datos. Frédéric est frustré parce qu'il voudrait bien qu'on parle du volet industriel plus que du volet financier dans cette histoire.
Oui, comme souvent, parce que on est quand même dans un univers dont on parle, le quantique, oui. L'intelligence artificielle, le cloud. Et là, on se dit, mais comment se fait-il qu'on en arrive à une telle situation avec une entreprise comme Atos aujourd'hui, alors tous ces domaines sont en pleine croissance.
Qu'enfin, il y a un repreneur et qu'on puisse avancer véritablement sur les grands enjeux. Merci messieurs, Frédéric Simotel et Mathieu Pechberti avec nous sur BFM Business. Dans l'actualité ce soir, il y a cette énorme commande pour Airbus aujourd'hui. C'est le groupe Saudia, propriétaire entre autres de la compagnie saoudienne du même nom, qui va commander d'un seul coup 105 appareils. Des A320 et des A321 Neo, contrat annoncé lors d'un forum organisé à Riyad, au prix catalogue en tout cas, c'est un contrat qui se chiffre à un peu plus de 19 milliards de dollars. 18h05 en France, ça va être une semaine compliquée à négocier pour le gouvernement. Pourquoi ? Parce qu'il va présenter dans les prochains jours sa nouvelle réforme de l'assurance chômage. Les partenaires sociaux doivent d'ailleurs être reçus à partir de demain pour en parler. Ça s'annonce assez tendu. Caroline Morisseau.
Parmi les mesures qui tiennent la corde, durcir les conditions d'ouverture des droits. On pourrait devoir travailler non plus 6, mais 9 mois par exemple sur les 24 derniers pour être indemnisé. Autre piste encore, allonger le délai de carence, c'est-à-dire le laps de temps avant que l'indemnisation se déclenche. Aujourd'hui, c'est 6 mois maximum. Le gouvernement pourrait relever ce seuil. L'idée de baisser la durée d'indemnisation semble en revanche écartée, dans l'immédiat en tout cas. Mais le gouvernement ne s'interdit pas de durcir encore un peu plus les règles si la conjoncture s'améliore. Ainsi, il pourrait graver dans le marbre dès maintenant l'idée de baisser encore un peu plus cette durée d'indemnisation si le chômage tombe sous les 6%. Enfin, les employeurs pourraient ne pas être épargnés. Le bonus-malus, qui consiste à alourdir les cotisations des entreprises qui ont le plus recours aux contrats courts et qui ne s'applique aujourd'hui que dans 7 secteurs, pourrait être élargi à tous les secteurs. Si officiellement rien n'est arbitré, une certitude, le gouvernement vise des mesures qui aient un effet rapide sur le marché de l'emploi.
Bon, alors est-ce qu'il faut faire cette réforme de l'assurance chômage, écoutez ce que nous disait ce matin ce spécialiste du marché du travail, Antoine Fouché. En fait, pour lui, le gouvernement ne prend pas du tout le sujet par le bon bout. Écoutez ce qu'il nous disait ce matin.
Je ne suis pas convaincu que ce soit le bon moment de faire une réforme de l'assurance chômage pour la raison suivante, c'est que le problème principal du pays dans son rapport au travail, c'est le pouvoir d'achat. Depuis 15 ans, le pouvoir d'achat du travail, il augmente de moins de 1% par an. Ce qui veut dire, de façon non technocratique, que travailler ne permet plus de changer de niveau de vie. Et c'est parce que le gouvernement n'a pas le courage de s'attaquer à ce problème de pouvoir d'achat en faisant que le travail paye plus, qu'il s'attaque à un problème beaucoup plus facile en faisant que le chômage paye moins.
Voilà Antoine Fouché, président du cabinet Quintet, ancien conseiller au ministère du Travail. Il était avec nous ce matin sur BFM Business, 18h07. On va sur les marchés tout de suite retrouver Étienne Brac à Euronext à la Défense parce qu'on travaillait à la Bourse de Paris bien sûr en ce lundi de Pentecôte. Bonsoir Étienne, on a travaillé et on a terminé en petite hausse apparemment ce soir sur l'indice parisien Étienne.
En effet, après deux séances dans le rouge, vous avez un CAC 40 qui rebondit ce soir, mais qui échoue à l'approche des 8200 points, 8195 points. C'est une hausse de 0,3% avec des volumes d'échanges qui, bien entendu, étaient vraiment très faibles en ce jour férié. Du côté des valeurs, à souligner que vous avez Ryanair qui a baissé de quasiment 3% en séance avant finalement de perdre 1,2% à Dublin ce soir, avec des résultats qui sont certes records, un programme de rachat d'actions de 700 millions, ce qui est vraiment inédit pour un acteur aérien en Europe, mais un groupe qui parle de prix qui commence un petit peu à plafonner hein, après des hausses de prix de plus de 20% l'année dernière. L'été s'annonce un petit peu plus compliqué en termes de dynamique de hausse de prix. Donc suite à cela, vous avez le titre qui s'est retourné à la baisse. À noter que la séance a également été marquée par un nouveau record sur l'once d'or aujourd'hui dans un contexte géopolitique trouble en Iran. Vous avez l'once qui est au-delà des 2450 dollars quand les cours du pétrole de leur côté aussi aux alentours des 84 dollars. Et donc la bourse de Paris qui, contrairement à Wall Street, n'est pas sur des plus hauts historiques. Plus 0,3% néanmoins ce soir à la clôture à 8195 points.
Merci beaucoup Étienne. Étienne Braque avec nous à Euronext, à la Défense pour BFM Business. On regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street. Pendant ce temps, on travaille aussi à Wall Street ce lundi de Pentecôte. On travaille mais on ne fait pas grand-chose. Le Dow Jones est à l'équilibre au moment où on se parle. 40 015 points, on est au-dessus des 40 000 désormais. Et puis l'indice Nasdaq de son côté qui grappille 0,6%, 16 786. Tout ça à la mi-séance, 18h09. L'économiste Patrick Artus, conseiller économique chez Natixis, et l'invité d'Eddy Chevrillon. C'est la grande interview dans un instant. À tout de suite.
BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview.
Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Mon invité ce soir, c'est l'économiste Patrick Artus. Bonsoir Patrick.
Bonsoir Edwige.
Merci d'être avec nous. Beaucoup de questions à vous poser, des questions sur votre livre que vous venez de publier avec votre co-auteur favorite, Marie-Paul Virard, un livre que vous publiez chez Odile Jacob, « Quelle France en 2050 ?» C'est vrai qu'en ce moment, on en parle tous les jours sur BFM Business et dans la grande interview, alors ce qu'on voit, la Chine, les États-Unis, cette espèce de match du corps à corps, on dit qu'il n'y a pas beaucoup de place pour l'Union européenne. C'est un peu ce que vous décrivez dans votre livre, c'est pour ça que c'est très intéressant. D'abord, quand même deux questions d'actualité. On s'attend à une perspective des taux d'intérêt, dans les 15 jours, dans les 3 semaines, en tous les cas, bientôt, pour la Banque Centrale Européenne, ça c'est sûr. Est-ce qu'il faut s'attendre à une baisse des taux significative? Vous avez fait toute une étude très intéressante qui montre qu'en fait, il y a une sensibilité plus grande aujourd'hui des banques centrales vis-à-vis de l'inflation, vis-à-vis de la croissance et du chômage.
Je crois que oui, les banques centrales, enfin particulièrement la BCE, a envie de baisser les taux d'intérêt, mais ça ne sera pas facile. La première baisse en juin, elle est acquise, elle est annoncée.
Combien justement ?
25 points de base en juin, donc c'est pratiquement décidé. Mais c'est la suite qui est incertaine parce que le taux d'inflation de la zone euro va remonter. L'inflation de la zone euro est baissée par un facteur technique qui est que sur l'année écoulée, les prix de l'énergie, les prix des matières premières ont beaucoup baissé. Cette baisse va disparaître et même va être remplacée par une hausse des prix de l'énergie et des prix des autres matières premières. Donc on a probablement atteint le point bas de l'inflation à 2,4% et l'inflation risque de remonter d'ici la fin de l'année. Et donc la BCE aura un travail assez compliqué et je crois qu'il ne faut pas attendre plus de 2 baisses de taux d'intérêt, c'est-à-dire 50 points de base cette année.
D'accord, dans l'année. Et de la part de la Banque Centrale Européenne, oui. Parce que justement, ce qui est intéressant, là aussi c'est une première en ce moment, on a un peu le sentiment que tous les schémas qu'on connaissait sont remis à l'envers. Je m'explique. D'habitude, c'est la Fed qui baisse ses taux, puis ensuite la Banque Centrale Européenne qui suit. Là, visiblement, ça va être l'inverse. Est-ce que ça va bousculer, ça va inquiéter les marchés?
Oui, enfin, c'est bizarre parce que fondamentalement, il y a moins d'inflation aux États-Unis qu'en Europe. Si vous regardez les coûts salariaux, les salaires corrigés de la productivité, ils augmentent de 2% par an aux États-Unis et ils augmentent de 4,5% par an en Europe.
Là,
fondamentalement, on a plus d'inflation en Europe qu'aux États-Unis. Mais c'est caché, cette inflation européenne, à nouveau, par la désinflation importée, par la baisse forte des prix des importations. Donc ça donne une marge de manœuvre à la BCE, alors que la Réserve fédérale est engluée dans une inflation qui est toujours presque à 3,5% au mois d'avril.
Est-ce que c'est, à votre avis, c'est un schéma qui va se retrouver, qu'on va retrouver maintenant, dorénavant, on va dire?
Non, je ne crois pas. Je crois que le cycle américain, il est toujours en avance sur le cycle européen.
Ah oui, oui.
Les États-Unis ont un an d'avance cyclique sur l'Europe. L'année 2024 ne sera pas une trop mauvaise année en Europe. L'année 2023 était une très mauvaise année.
Oui, mais pas sur les taux, visiblement.
Non, mais parce qu'à nouveau, il y a l'inflation est perturbée. Par ces mouvements de prix d'importation et puis par la très forte baisse des prix de l'énergie en Europe qui ont bondi au moment du début de la guerre en Ukraine.
Standard & Poor's, le 31 mai, est-ce qu'il faut s'attendre à une dégradation de la France? Quelles conséquences? Parce que moi, je m'en souviens d'une étude que vous avez faite pour Natixis où vous disiez mais finalement, la dette, ce n'est pas si important que ça. Alors d'abord, est-ce que vous pensez qu'on va être dégradé ou pas? C'est grave, docteur. Et la dette, est-ce qu'il faut s'en inquiéter ou pas?
Bon, d'une part, les agences de rating détestent changer le rating d'un emprunteur lorsque les marchés n'ont pas changé leur jugement sur l'emprunteur. Donc les marchés ont un jugement très positif sur la France, hein, puisque l'écart de taux d'intérêt avec l'Allemagne est très bas, il est en dessous de 50 points de base, etc. Donc ça sera une difficulté. Donc le Standard & Poor's aurait été beaucoup plus confortable pour dégrader la France si les marchés avaient déjà implicitement dégradé la France. Et puis, il faut regarder quelle est la dette. Alors, la France, dans le passé, a accumulé beaucoup de dettes à cause de la générosité du système de retraite, de la générosité des systèmes de protection sociale. Mais ce qu'elle annonce maintenant est différent. Elle annonce de la dette qui va financer la transition énergétique, les relocalisations industrielles. Et donc, c'est de la bonne dette, si vous voulez. Hein. Et d'ailleurs, la dette qui va financer la transition énergétique, si on ne faisait pas cette dette-là, on ne maîtriserait pas la hausse des températures. Alors, c'est pas que la France. Hein, si tous les pays ne s'endettaient pas pour arrêter la hausse des températures planétaires, on aurait des désordres qui coûteraient beaucoup plus à l'économie que cette dette. Donc, je crois que les agences de rating ne seront pas très sévères. Et d'ailleurs, il ne reste que S&P, hein, puisque les deux autres ont déjà...
Oui, mais c'est la plus importante. Oui, il y avait des critères qui sont, je dirais, presque un peu plus... dans la sensibilité moins organisationnelle, si je puis parler ainsi.
Oui, mais à nouveau, je crois que... ça va interférer aussi.
Donc vous faites ce
pari-là. Ça va interférer aussi avec les nouvelles règles du pacte de stabilité. Les nouvelles règles de ce pacte de stabilité, si vous faites des investissements qui, à terme, desserreront la contrainte budgétaire, à terme, amélioreront la soutenabilité de la dette publique, vous disposez de 7 ans et pas de 4 ans, qui est le cas général, pour améliorer vos finances publiques. Et donc, il y a un ensemble de décisions, y compris en Europe, qui donnent plus de flexibilité pour faire des bons investissements et faire de la bonne dette.
Bon, on va revenir sur l'histoire de la bonne dette parce que ça peut paraître parfois un petit peu compliqué. Alors, dans votre livre, il y a un point que je trouve très intéressant parce que c'est vraiment le sujet un peu d'aujourd'hui. Est-ce que c'est la fin, vous dites, de la parenthèse enchantée de la mondialisation? Est-ce que c'est la fin de la mondialisation? Est-ce que, comme vous le dites en citant Sullivan, je crois, vous dites, en fait, il faut se préserver, c'est américain, un petit jardin avec des très hautes clôtures. C'est ce qu'ils sont en train de faire, c'est ce que font les États-Unis sur la voiture électrique, avec 100% de droits de douane pour les voitures chinoises. C'est une bonne chose. Jean-Marc Daniel, que vous connaissez bien, il dit, mais ça n'a jamais marché, le protectionnisme, c'est une erreur totale. Alors, que faut-il croire ?
Alors, le protectionnisme est nécessaire lorsque vous protégez une industrie qui est naissante et pour laquelle vous avez du retard dans le développement de cette industrie par rapport à vos concurrents. Et si vous ne faites pas de protectionnisme, vous ne développerez jamais cette industrie parce que vous avez un retard qui fait que vos prix de vente sont plus élevés, vous êtes moins compétitif. Et donc la question qu'il faut toujours se poser, est-ce qu'on tombe dans le cadre de cette théorie des industries naissantes, hein, qui à nouveau justifie le protectionnisme pour une période de temps transitoire, hein, pour le temps qu'il faut pour amener des effets d'échelle,
donc,
pour amener cette économie.
Donc vous dites, les Américains, ils ont raison. C'est ce qu'on devrait faire au niveau français et européen.
Alors, les Européens mettront pas de droits de douane de 100% sur les voitures chinoises. Je crois qu'ils vont faire un calcul qui sera plus raisonnable et plus sophistiqué, qui sera d'évaluer clairement quel est l'avantage de la Chine en termes de quel avantage que procure à la Chine les subventions publiques, quel est l'avantage que procure à la Chine le faible taux de marge de ses entreprises dans la batterie électrique. Et donc, on arrivera à un taux de taxation des importations de voitures chinoises qui sera proche de la réalité économique, du biais de compétitivité de la Chine.
J'aime beaucoup la phrase de votre introduction, justement, sur ce chapitre très intéressant qui s'appelle « Fragmentation du monde, le temps des hautes clôtures ». Là, on est en plein dedans. Vous dites « Notre histoire commence par une sorte d'oraison funèbre. La mondialisation est presque morte. Le libre-échange est presque mort. Et je ne pense pas qu'ils reviendront de si tôt. » Et c'est Maurice Chang, 91 ans, qui est le fondateur justement de l'entreprise de semi-conducteurs taïwanais, TSMC, qui disait ça là, il y a quelques temps, alors que lui, au départ, il pensait que la mondialisation c'était, bah, pour lui, c'était formidable. Donc, vous pensez vraiment qu'elle est morte, la mondialisation ?
Alors, si on prend une photo instantanée, il y a un problème très clair qui touche les échanges de biens. Les échanges de biens sont très en deçà de ce qui devrait être si on était resté sur la tendance antérieure. Donc, il y a une démondialisation des échanges de biens. Il y a des travaux qui montrent que, par exemple, et c'est assez amusant, les pays échangent plus s'ils votent de la même manière aux Nations Unies. Hein, donc, il y a vraiment une segmentation idéologique entre les groupes de pays pour les échanges de biens. On ne voit par contre aucune démondialisation pour les échanges de services, hein, et on ne voit aucune démondialisation en ce qui concerne l'utilisation du dollar. Hein, le dollar est toujours, même de plus en plus, utilisé pour ces utilisations internationales. Et donc, c'est sélectif. On a une grosse démondialisation aussi en ce qui concerne les investissements directs d'entreprises en Chine. Il y a un effondrement des investissements directs d'entreprises en Chine. Et donc, on a des indices de démondialisation, dont échange de biens ralenti et effondrement des investissements d'entreprises en Chine, mais le reste continue à se mondialiser. Hein, les échanges de services, les investissements directs d'entreprises en dehors de Chine, et le rôle du dollar dans l'économie mondiale.
Parce que c'est intéressant ce que vous disiez, c'est-à-dire que ceux qui votent, qui sont aux Nations Unies, qui votent ensemble, sont en général, votent presque ensemble économiquement, on va dire. Ça fait un bloc géopolitique et un bloc...
Oui.
Mais lorsqu'on regarde le bloc, notre bloc des Occidentaux, on n'est pas dans la meilleure des situations, hein, quand même.
Oui, mais...
Ça revient sur votre livre, Quelle France en 2050, et l'Europe qui s'appauvrira beaucoup
en 2050. Mais je ne crois pas que le commerce n'est qu'une raison. Les pays qui vont souffrir le plus de ralentissement du commerce de biens, c'est les pays qui ont des stratégies qu'on appelle mercantilistes. C'est des pays, par exemple l'Allemagne, ou en Asie, la Corée, le Japon, c'est des pays...
Pourquoi ?
C'est des pays
qui... C'est pas ce qu'on observe aujourd'hui, hein, quand même, Patrick.
C'est des pays qui faisaient tirer leur économie par la croissance de leurs exportations. L'Allemagne et le Japon sont en croissance négative aujourd'hui. Hein, donc ça, c'est clair que ces deux pays souffrent. Mais il y a des problèmes européens qui sont très sérieux et qui n'ont rien à voir avec la démondialisation. Il y a le problème démographique. L'Europe a une baisse maintenant pratiquement de 1,5% par an de sa population en âge de travailler. Et le vrai problème qui s'ajoute à ça, c'est le problème de recul de la productivité du travail. Si on avait un vieillissement démographique, mais qui était compensé par des gains de productivité très rapides, ça ne serait pas grave, parce que on remplacerait les hommes par des machines et on continuerait à produire plus. Mais on n'a pas du tout ça. On a à la fois la baisse de la population en âge de travailler et la baisse de la productivité. Et donc, si on fait des extrapolations à l'horizon 2050, on trouve par exemple que le poids de l'Europe dans l'économie mondiale baisse de 22 à 15%. Et si vous continuez plus loin, c'est plus impressionnant encore.
Donc on s'appauvrit quand même.
Le protectionnisme, ce n'est qu'un tout petite explication de ça.
C'est la partie visible de l'iceberg, j'ai envie de dire.
Oui, mais
l'explication
la plus grave et la plus inquiétante, c'est l'arrêt des gains de productivité en Europe, alors que les États-Unis, par exemple, continuent à avoir
2%. Comment vous expliquez ça ?
Insuffisance d'investissement en nouvelles technologies, insuffisance de la recherche-développement, problème du système éducatif.
Je sais pas, Vivatech, Choose France, on a l'impression que la France passe son temps à investir dedans. Alors, vous me direz, c'est 5 milliards,
Où
les Américains mettent
50
milliards.
Vous avez tout à fait raison, mais si vous regardez, par exemple, le poids de l'industrie, la production industrielle, en France, elle continue à décliner légèrement.
Donc, pour vous, la réindustrialisation de l'Europe et surtout de la France, elle n'est plus possible. Elle n'est pas possible. Je sais pas, les gouvernements, les ministres, ils vous détiennent le contraire.
D'abord, il n'y a pas de réindustrialisation aujourd'hui. Regardez la production industrielle.
C'est pas le solde d'installation d'usine, la solde positive, solde net.
Et il faut pondérer pour la taille des entreprises qui disparaissent ou qui sont créées. Hein. Mais la production industrielle ne se redresse pas absolument pas. Et alors, vous avez des handicaps majeurs. D'abord, le fait qu'il n'y ait pas de croissance. ça n'incite pas beaucoup à investir dans une région par rapport à un investissement aux États-Unis. Ouais. Ensuite, les aides publiques américaines sont plus efficaces. Le prix de l'énergie est plus bas aux États-Unis. Les coûts salariaux sont plus bas, etc. Donc, vous avez beaucoup d'avantages comparatifs des États-Unis qui ne se retrouvent pas en Europe. Donc je crois que la réindustrialisation de l'Europe, ça ne se fera que pour les industries très stratégiques et ça nécessitera beaucoup d'aides publiques pour se faire.
Oui, c'est là où ça revient sur les questions que vous défendez souvent, c'est la spécificité en fait industrielle économique de chacun des pays de l'Union européenne. Il nous reste 3 minutes et j'ai encore beaucoup de questions, mais quand même, la solution justement pour cette France de 2050, si on reste un instant focus sur la France, c'est quoi? Parce que moi, si je vous écoute, je vais mettre la tête sous l'oreiller, Patrick Artus, et puis j'attends que ça passe, quoi.
Le problème, c'est un ensemble de choses. Il faut réformer le système éducatif pour que les jeunes français soient normalement qualifiés.
Ça sera dans 10 ans, quoi, déjà.
C'est des programmes à 10 ans, de toute façon. Ouais. Il faut investir beaucoup plus en nouvelles technologies et en recherche-développement. Ouais. Les dépenses de recherche-développement des États-Unis, c'est 3,5% du PIB. La France, c'est 2,2. Ouais. Hein, c'est quand même un énorme écart.
Et l'Europe?
Et l'Europe, c'est à peu près le chiffre français, oui.
Ouais,
il faut moderniser notre industrie. On a un handicap aussi, qui est les PME. Les PME françaises sont peu modernes, sont peu productives et on a peu d'entreprises finalement qui se modernisent et qui font des investissements technologiques. Et donc c'est un long programme, mais qui part de la réforme du système éducatif, de la formation de scientifiques. Et bon, alors c'est dans les tuyaux du gouvernement, mais il faut que ça aboutisse.
Oui, c'est compliqué. Toute dernière question, là je reviens à une question d'actualité. Est-ce que les actionnaires sont trop, notamment en France, mais est-ce qu'ils sont trop rémunérés? Je crois que grosso modo, vous avez 67 milliards pour le CAC 40, un peu plus de versement de dividendes, plus 30 milliards de rachat d'actions. Est-ce que c'est trop? Est-ce que ça nuit à la capacité d'investissement des entreprises françaises? Restons un instant sur les entreprises françaises.
Si on regarde les entreprises françaises, elles n'ont pas arrêté d'investir. Au contraire, leur investissement a augmenté assez fortement, beaucoup plus que les autres entreprises européennes. Mais le problème, c'est les investissements nécessaires pour la transition énergétique. Et je crois que nous ne ferons pas ces investissements nécessaires, qui sont à peu près de 75 milliards d'euros par an, si on ne distribue pas moins de résultats aux actionnaires. Et les actionnaires ne seront pas spoliés. Si vous conservez dans l'entreprise des résultats qui sont investis, ça c'est la propriété des actionnaires. Mais il va falloir réduire la distribution de résultats aux actionnaires pour pouvoir faire les investissements de transition.
Toute dernière question, Patrick Artus. Rapidement, vous êtes administrateur de Total Energy pendant longtemps. Oui. Total Energy qui se coterait à Wall Street, ça changerait quoi?
D'abord, ça se coterait beaucoup plus cher, puisqu'il y a une sous-évaluation des sociétés pétrolières européennes par rapport aux sociétés pétrolières américaines.
Merci. De toute manière, a priori, il a refermé la porte, le Patrick Pouyanné. Merci beaucoup. Très intéressant. Patrick Artus, Marie-Paul Virard, Quelle France en 2050, et c'est publié chez Odile Jacob. Merci beaucoup.
Merci Edwige.
Good evening business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
Allez, 18h35 sur BFM Business, les experts arrivent. Bonsoir Audrey.
Bonsoir Guillaume,
Audrey
bonsoir
Tchirkov
à tous.
Avec nous bien sûr jusqu'à 20h et puis nos experts sont là. L'économiste Pascal de Lima est avec
bonsoir.
Nous. Bonsoir Pascal, bienvenue Emmanuel Lechypre.
Bonsoir.
Économiste de formation aussi si je ne m'abuse.
C'est exact.
A priori.
Économètre.
Ça. Économètre.
Ouais.
Pourquoi économie?
Parce que c'est de l'économie mathématique.
D'accord, pardon, excusez-moi.
Voilà, on trifouille des modèles.
C'est bien.
Voilà,
parce que ce qui ne veut pas dire qu'on ne se trompe jamais de l'économie mathématique.
Voilà.
Ah non, bah pas du tout.
Voilà.
Pas au contraire.
Edwige Chevriot avec nous. Bonsoir Edwige, économiste aussi.
Aussi. Bah,
donc, alors voilà. La boucle est bouclée. Beaucoup de choses, on va dire un mot du bouquin de Patrick Artus, bien sûr, La France en 2050 avec Marie-Paul Virard. Il y a beaucoup de choses et notamment le fait qu'il est zen par rapport à ce que va nous dire Standard & Poor's dans une dizaine de jours. Alors, ça, c'est
oui, étonnant. Alors autant il n'est pas zen sur l'avenir de l'Europe et de la France,
on va en parler,
là,
oui.
On voit bien quand même qu'il voit qu'une émergence très forte de la Chine et des États-Unis. Mais alors sur Standard & Poor's, effectivement, puis c'est le 31 mai, on est tous un peu suspendus. Lui dit que c'est très rare de voir des agences de notation, je n'ai pas vérifié, donc je vous cite Patrick Artus, très rare de voir des agences de notation qui dégradent des émetteurs alors que les marchés ne les ont pas dégradés. Et or, il dit, la dette de la France, bah, tout le monde se l'arrache, tout le monde est très content. Et donc, il voit, donc, à son avis, il n'y aura pas de dégradation. Peut-être un film, il voit pas l'intérêt de la dégradation de la dette de la France. Et de manière, il dit, ça ne changera rien.
Non, mais ce qui est quand même très grave, parce que ce que ça dit, c'est que les agences de notation, elles ne sont jamais en avance de phase. Et d'ailleurs, ça s'est quand même illustré à travers de nombreux exemples, en 2008 notamment, et qu'elles suivent le mouvement. Au lieu
non,
de
c'est
le
pas
créer.
Suivre le mouvement, c'est...
Non, c'est ça qui est quand même paradoxal, c'est que normalement les agences de notation, c'est un peu des c'est un peu pour l'investisseur ce que le guide Michelin est à la gastronomie, c'est-à-dire que vous attendez un avis, vous allez voir, on vous dit que c'est super, vous y allez, on vous dit que c'est moins super, vous avez un peu moins envie d'y aller, et donc normalement les taux sont censés monter, les investisseurs être un peu plus réticents à prêter. Là, s'ils nous disent que finalement c'est une fois que marchés ont décidé que un État méritait d'être sanctionné, que eux décident de dégrader la note. Oui, c'est assez inquiétant, mais ça montre bien que le jugement global qu'on peut espérer de la rationalité, parce que je me rappelle
très aléatoire.
Alan Greenspan à la fin des années 90. Et Pascal a dû connaître ça.
Ancien président de la Réserve fédérale américaine.
Il disait, écoutez, c'est bien de dire qu'il y a des bulles, etc. Mais comment voulez-vous que moi, président de la Réserve fédérale, je prétende mieux savoir et mieux évaluer le niveau des marchés que tous les milliers de gens soi-disant bien informés qui le composent?
Ah ben, on a bien vu que les banquiers centraux avaient du mal à anticiper.
Quand on a vu les taux à long terme européens, par exemple, depuis la création de l'euro jusqu'à 2007-2008, où est que la Grèce, finalement, a les mêmes taux quasiment. Vous dites les forces de rappel des marchés.
Pascal.
Non, mais en fait, c'est très amusant parce qu'on est en plein dans la rationalité qui n'est plus cette fameuse rationalité traditionnelle dont on parle, mais c'est une rationalité en fait mimétique. Et je me souviens de Michel Aglietta qui en parlait beaucoup, notamment.
Autre économètre.
Absolument. Et à mon avis, il y a une double causalité. Pour le dire simplement, les marchés financiers, premièrement, vont apporter un certain nombre d'informations aux agences de notation qui vont les intégrer, évidemment, dans leurs analyses d'économétrie pour produire ces notes-là. Et puis, ces agences de notation-là vont produire des notes qui vont consolider des tendances auto-réalisatrices et notamment les convictions des marchés financiers. C'est ce qu'on appelle, en fait, de la rationalité mimétique. Pour le dire clairement, les agences de notation attendent un mouvement des marchés financiers.
Oui, voilà, c'est ça.
Ils attendent un mouvement des marchés financiers vers un acteur C, qui est un pays plus ou moins downgradé, pour se positionner. C'est de la rationalité.
Pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a pas d'écart majeur, on ne voit pas l'écart se creuser entre les taux allemands et les taux français.
Voilà, non, tout à fait.
Non, pour le moment, non, ça reste toujours les mêmes.
L'expérience prouve que c'est jamais très progressif non plus.
Non.
C'est-à-dire que c'est toujours, il y a toujours des changements d'état d'esprit qui sont extrêmement brutaux. C'est-à-dire qu'on n'a pas...
la Grande-Bretagne, il y a deux
ans. Voilà, c'est ça, c'est exactement ce qui s'est passé en Grande-Bretagne. On n'a pas d'écart qui se creuse progressivement, avec une analyse de quotidienne, etc.
Et je précise qu'au contraire des marchés financiers, les agents de notation ont subi un fort discrédit au cours des 20 dernières années.
Oui.
Alors que les marchés financiers...
Ça a remonté un petit peu.
Ça remonte un petit peu, mais il y a eu ces histoires de la crise du subprime, tout à fait non prévues.
On n'a rien vu du tout.
Il y a eu, bon, on ne va pas parler de dossier juridique, c'est complexe, mais il y a quelques conflits d'intérêts parfois aussi.
Oui.
Alors que les marchés financiers, on est dans une économie financiarisée toujours.
Il n'y a aucun conflit d'intérêts sur les marchés financiers, évidemment.
Un mot très vite. Alors, le bouquin s'appelle Quelle France en 2050 ? Il a parlé de l'Europe. Il y a un chiffre que j'ai retenu qui m'a effaré. Il dit voilà, aujourd'hui, le poids de l'Union européenne dans l'économie mondiale, c'est 22% du PIB mondial. Ça sera 15% en 2050.
C'est bien. Je trouve que c'est un peu ce qu'on est, le monde qui est en train de la route, en train de tourner. Nous, on l'observe bien en ce moment, je trouve, au cours d'interviews. Lorsqu'on voit les uns les autres, on sent bien que l'Europe est en train de patiner, est un peu de s'enfoncer dans un peu dans la fosse qui est en train de se creuser entre la Chine et les États-Unis.
Oui, c'est ça. En fait, ce que Patrick Artus nous dit dans son bouquin, c'est qu'on a une économie américaine qui conserve tous ses atouts, notamment sa monnaie évidemment, une Chine qui pourrait bien manger son pain blanc, elle est en train de commencer à le manger d'ailleurs, et avec une Europe qui décroche sérieusement, notamment en effet à cause de la baisse de productivité, Pascal.
Oui, j'ai écouté Patrick Artus tout à l'heure, j'ai beaucoup de mal à contredire mes pères, c'est toujours
on
un
est
peu,
là pour
c'est,
ça,
c'est comme avec Christian Zécosu et Chouvrir, mais enfin, il n'a pas parlé de transition, c'est-à-dire
non, ça, vous ne me contredisez pas, d'accord.
On vit une phase de transition en réalité, c'est-à-dire qu'on est un processus de destruction créatrice. Il faudrait aujourd'hui, dans l'analyse de Patrick Artus, séparer la vieille économie de la nouvelle économie. Et vous verrez que les analyses sont très différentes. Il y a une nouvelle économie qui augmente à travers l'intelligence artificielle, les innovations disruptives,
oui,
la création d'un million d'entreprises alliées.
Il y en parle, voilà. Pascal, en disant mondes, que la vieille économie, c'est l'Europe.
Tout à fait. Il y a deux mondes qui se préparent quand même. Et la France n'est pas complètement en retard non plus sur le. Il y a un retard relatif.
Sur les investissements dans les nouvelles technologies notamment, on est quand même à la ramasse.
Oui, sauf que la comptabilité n'appréhende pas ce phénomène. Il faut un certain temps avant que ça émerge dans la comptabilité nationale. Or, les macroéconomistes se font sur les
économies. Emmanuel Macron dit que ça va être 5 milliards qu'on va donner dans le quantique. C'est très bien, mais enfin, je veux dire, c'est minuscule par rapport à ce que donne à l'échelle.
Tout à fait, sauf que les projets.
Qu'il faudrait investir.
Sauf que les projets de transformation dans le change management, dans l'intelligence artificielle dans les entreprises, explosent en variation. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de changer les métiers, d'enrichir les métiers, et avant que ça se voit dans la comptabilité, il nous faut entre 5 et 10 ans.
Mais là, il y a plusieurs...
Je peux juste rajouter un point, tout petit.
Edwige,
juste ce que dit Patrick Artus. Non, d'intéressant aussi, il a fait une note là-dessus pour Natixis. Il dit que tant qu'il n'y aura pas de fédéralisme au niveau de l'Union européenne, on ne pourra pas avoir une politique industrielle commune. Mmh. Donc, s'il prolonge un peu ce que vous disiez. Et je pense que c'est un peu,
oui,
la difficulté.
En même temps, c'est des avantages comparatifs qui sont importants. Donc, la politique industrielle commune est compatible avec les différences de chacun.
Enfin, Emmanuel.
Non, mais ce qui est compliqué, c'est que dans ces nouvelles technologies, il y a plusieurs dimensions.
Oui.
Il y a, est-ce que vous en êtes fabricant? Est-ce que vous en êtes fabricant et utilisateur, ou est-ce que vous en êtes uniquement utilisateur? Et on voit bien que les gains de productivité et les avantages que vous tirez de technologie, c'est bien évidemment bien plus élevé quand vous en êtes à la fois créateur et utilisateur, ce que sont à la fois la Chine et les États-Unis. Et nous, effectivement, on n'y est pas. Mais c'est vrai que quand vous mettez quand même la liste des atouts et des faiblesses de l'Europe par rapport à ces deux concurrents, la liste des faiblesses, elle est quand même beaucoup plus grande. Donc, quand on regarde les industries sur lesquelles on pourrait se dire qu'on a un avenir, quand vous essayez de faire la liste, moi j'avoue qu'il n'y en a pas tant que ça.
Il le dit, il faut se concentrer sur les industries stratégiques.
Il y a quand même un secteur sur lequel on est plutôt en avance, où la France, par exemple, est le pays qui dépose le plus de brevets sur les technologies de la transition à haute valeur ajoutée et tout ce qui est verdissement, etc. Donc là-dessus, on a des technologies de la transition. L'intelligence artificielle, tout ça, on utilisera celle des autres parce que la nôtre, elle n'est pas...
Oui, enfin pardon, mais on a aussi un vrai souci démographique. Ça, vous n'en parlez pas, parce que d'un côté, on a une baisse de la population en âge de travailler avec cette baisse de la productivité. Donc c'est quand même le duo perdant.
Mais ce qu'on a, encore une fois, c'est pour ça que le jeu économique mondial, finalement, il se répète. Et c'est un peu comme... encore une fois, c'est toujours les États-Unis qui gagnent.
Bah oui.
C'est comme les films de Rocky, les uns après les autres, on l'a déjà dit ici.
Un jour sans fin.
C'est-à-dire qu'en gros, on a l'impression qu'à chaque fois qu'on a un adversaire qu'on confronte aux États-Unis, on se dit, oh là là, c'est un gros rival. Et puis le gros rival, il explose en vol. L'Union soviétique a explosé en vol. Après,
Les États-Unis ne sont pas du tout en train d'exploser en vol. Hein.
Non, c'est ce que je dis.
Ouais,
non,
mais
le challenger des Américains.
Ouais, alors,
on nous a toujours dit... Les États-Unis, ça va flancher.
Au
résultat, ils sont venus à bout de l'Union soviétique. Après, c'était le Japon. On nous a dit, ils vont se faire terrasser par le Japon. Bah, les années 90, ça a été l'effondrement du Japon et la décennie dorée des États-Unis. Après, ça a été la Chine. Maintenant, plus personne vous dit que la Chine rattrapera les États-Unis.
C'est
parce qu'ils ont tout.
Maintenant, c'est l'Inde.
Ils ont tout. Donc, c'est vrai qu'ils sont quand même.
Voilà.
Il faut qu'on avance. Voilà pour l'interview de Patrick Artus qu'on a débriefé pendant, vous voyez, 10-12 minutes facilement.
Il y avait de quoi.
Voilà, il y avait de quoi.
Bon, on voulait évidemment dire un mot, Guillaume, de ce qu'on appelle un marronnier dans le monde du journalisme. Que reste-t-il du lundi de Pentecôte? Que reste-t-il de cette journée de solidarité qui est née en 2004? 2004, rappelez-vous, après la canicule de 2003.
Jean-Pierre Raffarin.
Pas grand-chose.
Ça peut valoir un commentaire, on va peut-être pas
Jean-Pierre
faire.
Jean-Pierre Raffarin et Jean-Chirac.
Ouais. En dire un.
Non, ça mérite pas plus.
Un mot très long. Non, mais voilà. Non, juste ces chiffres que donnait Randstad, 30% des salariés français travaillaient le lundi de Pentecôte en 2016, 44% en 2005. De toute façon, on a compris que cette histoire était faisandée dès le début.
Oui, et pas le service public, hein.
Non, pas le service public. Non, voilà.
Bon, elle a quand même rapporté 3 milliards d'euros en 2023.
Oui, mais ça rapporte, en fait, ça rapporte toujours la même somme. Le truc, c'est que depuis que le dispositif a été assoupli...
Ah, en 2008, on a assoupli,
oui,
voilà.
Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la fameuse journée de solidarité qui avait été créée après la canicule de 2003 pour rapporter finalement et soutenir et aider financièrement les plus anciens, le dispositif a été assoupli en 2008 et maintenant, vous pouvez la décider à peu près n'importe quel jour férié, voire un jour de RTT. Ce qui compte, par contre, c'est que dans l'année, il y ait bien une journée au cours de laquelle les salariés travaillent bénévolement, entre guillemets, pour aider les plus anciens. Mais donc, du coup, c'est ça qui est génial. C'est-à-dire que maintenant, plus personne ne sait ce qu'il faut faire, travailler, pas travailler, etc. Mais ça rapporte toujours.
Il y a toutes les boîtes qui donnent. Il y a toutes les boîtes qui donnent aussi le jour. Comme Damo rappelait ce qu'avait fait la SNCF à l'époque, qui avait dit pour pas sucrer deux jours de RTT, de congé férié, ni rien, qui avait calculé en fait combien de temps additionnel il fallait travailler par jour gratuitement pour que sur l'ensemble de l'année on arrive à obtenir une journée de travail. Une minute 52 secondes. La direction de la SNCF a dit à l'époque à ses salariés, mesdames, messieurs, vous allez travailler 1 minute 52 secondes supplémentaires par jour pour financer sur l'ensemble de l'année cette journée de solidarité. Je trouve ça exceptionnel. Qui veut dire un mot là-dessus, Edwige?
Non, mais il y a un sujet sur le financement de la dépendance. Hein. C'est le sujet, c'est les 40 milliards à trouver. Donc on a un processus là, soit administratif. Bon, c'est le cas ici. Bon, on peut bidouiller un paquet de trucs encore pour trouver 8 milliards à peu près, je crois.
Non, mais...
Mais sinon, il y a aussi la
CSG. Il a fallu attendre 2020 pour faire un cinquième reste.
Non, mais justement, sur ces 40 milliards, Pascal, cette journée de solidarité, elle représente quand même 8% de ces fameux 40 milliards. Donc c'est pas mal.
Ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, c'est une règle qu'on pourrait appliquer à peu près tous les sujets. C'est-à-dire qu'en gros, à chaque fois qu'on cherche de l'argent, à chaque fois qu'on veut en dépenser, et on l'a dit tout à l'heure sur l'intelligence artificielle, etc., et à chaque fois qu'on cherche des économies, c'est très simple, on fait à peu près 10 fois moins que ce qui serait nécessaire. Voilà. C'est à peu près l'ordre de grandeur. C'est-à-dire qu'on va chercher un milliard quand il en faudrait 10, là on va en chercher 3 quand il en faudrait 40, etc. etc.
En fait, c'est le sujet qu'on attend depuis longtemps. Nicolas Sarkozy qui veut faire une grande loi sur la dépendance. On attend toujours et on voit bien que le chiffre, Pascal, 40 milliards, c'est énorme. Mais il faut qu'on trouve une solution.
Oui, parce qu'il y a d'autres leviers aussi.
Mais il y a énormément
les sujets sont toujours multidimensionnels. Oui. C'est l'efficacité des hôpitaux, il y a la responsabilité individuelle, les innovations hospitalières qui diminuent la dépendance.
Et bien, pour l'instant, on n'a pas
la croissance,
solution.
La croissance économique. Mais
bon. Alors qu'on est voilà pour ce lundi de Pentecôte qui vous inspire pas tant que ça. Hein.
En ce qu'il en reste.
Oui, ce qu'il en reste. Bon, allez, dans l'actualité ce soir, sinon, nous avons le dossier Atos, comme bien souvent. Bonsoir, Mathieu Pechberti. Merci de nous avoir rejoints. Oui, donc, on sait qu'il y a plusieurs candidats à la reprise, sauf qu'on entend dire depuis quelques heures que celle de Daniel Kretinsky n'aurait pas vraiment la cote.
Oui, en fait, vous savez, dans ce dossier, ce sont les créanciers qui vont voter, hein, un peu comme une élection, pour savoir quel est le meilleur repreneur possible. Alors évidemment, les créanciers voteront pour celui qui est le plus généreux en leur faveur. Et le problème, c'est que Daniel Kretinsky ne l'est pas du tout. Lui, il propose d'effacer 80% de la dette d'Atos, hein, donc 4 des 5 milliards d'euros de dette d'Atos, alors que son challenger, l'outsider David Layani, lui, il propose de n'en effacer que 2/3. Donc forcément, les créanciers votent pour celui qui sera le plus généreux avec eux, sauf que là, ils n'en sont pas au vote. Donc là, c'est une petite lettre pour faire comprendre à Daniel Kretinsky qu'il faut qu'il améliore son offre pour qu'il récolte les votes des créanciers, ce qui est assez normal en réalité. Là, on est au début, c'est un nouvel acte, mais au début de ce nouvel acte qui va mener jusque fin mai, hein, dans une quinzaine de jours maintenant, un petit peu moins de 15 jours, où là, il y aura le vote. Mais donc pour le moment, c'est assez normal. D'ailleurs, chacun a formulé une offre volontairement basse qui a vocation à être améliorée. Daniel Kretinsky, a priori, sera un peu plus, on va dire, généreux ou moins sévère, on va dire, avec les créanciers, en effaçant un peu moins de dettes. Et puis, dans le même temps, on devrait avoir dans les jours à venir une demande des créanciers qui demanderont à David Layani de lui de mettre un peu plus d'argent que ce qu'il met, puisqu'il en met un peu moins que Daniel Kretinsky. Donc c'est le match, c'est le jeu des négos.
À ce jour, vous dites avantage quand même sur le long terme à Kretinsky par rapport à Layani, qui sera peut-être plus en mesure de mettre, d'apporter plus finalement.
En tout cas, c'est ce qu'on entend depuis maintenant plusieurs mois dans ce dossier. C'est qu'il y a quand même, de toute façon, un grand, un gros, un riche, voilà, qui est le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, qui effectivement n'a rien d'un industriel, c'est un financier. Il a été à la fois sur Edity, sur Casino, même si son véritable métier industriel, c'est l'énergie. Et en face, vous avez un acteur plus petit, beaucoup plus petit, mais qui, lui, est du secteur.
Oui, mais alors Mathieu, pardon, mais on en débat à chaque fois. Un plus petit acteur, certes, mais qui s'est entouré de très grands fonds et de milliardaires. Walter Butler, est-ce que vous pensez sincèrement qu'il se serait engagé dans cette aventure sur Atos avec David Layani sans avoir prévu d'aller jusqu'au bout?
On verra en tout cas dans une dizaine de jours quels seront les résultats de ces offres. Pour le moment, Daniel Kretinsky, on va dire, a un désavantage par rapport aux créanciers, et David Layani a un désavantage par rapport à l'investissement en capital qu'il met dans cette société. C'est le jeu habituel des négociations, il ne faut pas en tirer plus de conclusions aujourd'hui.
Edwige Chevrillon.
Non, demain il y a un grand oral, on peut le dire
oui,
quand même. Demain il y a un grand oral très important. Enfin, important, oui. Enfin, ce sera une étape supplémentaire importante où Hélène Bourboulou va écouter les uns et les autres pour voir leur proposition, comme vient de l'expliciter Mathieu. Ce qu'on peut dire, c'est que d'un côté, vous avez un Daniel Kretinsky, qui effectivement, lui, il a l'air très solide, mais on l'a vu dans le dossier Casino, c'est-à-dire qu'il est venu, il a remporté le morceau, mais quelque part, Casino, tel qu'on l'a connu, n'existe plus. Il a vendu les plus gros hyper, et que maintenant, ben voilà, ça reste Casino est beaucoup plus petit, n'a plus rien à voir avec ce qui se passe avant.
C'est ce qui fait peur aux créanciers, c'est la vente à la découpe.
Voilà, c'est pour ça que j'y arrive doucement, et peut-être pas assez vite, mais c'est vrai que c'est la vente à la découpe qui peut inquiéter tout le monde, les créanciers notamment, peut-être aussi l'État. Et de ce point de vue-là, on a bien vu l'interview de Walter Butler dans Les Échos qui disait non, on ne veut pas du projet de Daniel Kretinsky parce que c'est la vente à la découpe d'Atos. Et à ce moment-là, il faut surtout que ça reste un groupe homogène. Et c'est là où il y a David Layani. À mon avis, le match, il va plus être entre Walter Butler et Daniel Kretinsky. Mais je peux me tromper.
Alors moi, je pense que vous avez raison. Ce qu'on peut dire aussi, parce que maintenant c'est très clair, Daniel Kretinsky a quand même pour projet, lui, de démanteler en effet la boîte faveur...
On ne sait pas très bien ça.
Non, mais enfin, je veux dire...
Il était intéressé par l'infogérance.
Il est quand même assez transparent sur le sujet. En faveur de ses activités à lui, et que sa stratégie, par ailleurs, au-delà de décrédibiliser OnePoint et David Layani, avec beaucoup d'appui politique, notamment de la part de Richard Ferrand, il n'a aucun projet industriel.
Mais quoi, David Layani est très soutenu par Emmanuel Macron, c'est ça que vous voulez dire?
Non, je dis pas ça. Mais je dis qu'il y a en tout cas une offensive.
Non mais vous voyez, si on rentre dans les jeux d'influence, il est très proche d'Emmanuel Macron. Donc on dit qu'il est très soutenu, en tous les cas, par l'Élysée. Mais bon.
Mathieu.
Non mais écoutez, on est dans un dossier... Oui. Voilà, comme les dernières sur Casino, comme il y a eu beaucoup de restructurations d'entreprise depuis très longtemps, on ne va pas s'étonner des jeux politiques, des jeux de réseau, on ne va pas s'étonner du lobbying des uns qui critiquent l'autre. Oui. C'est assez habituel. Il faut quand même regarder les faits et à un moment donné, la réalité économique s'impose.
Oui.
Atos, c'est une société... Je l'ai déjà dit il y a quelques mois, je m'étais fait taper sur les doigts, mais donc je vais le redire, qui est au bord de la faillite, on le voit aujourd'hui. Là, on est dans une procédure amicale de conciliation avec les créanciers qui risquent, si les choses se dégradent, et les choses vont se dégrader. Vous verrez les résultats du premier trimestre qui vont tomber maintenant dans quelques temps. Du deuxième trimestre, ils vont être de toute façon mauvais. Donc Atos est une société qui ou aura besoin d'un actionnaire avec les poches très profondes, et Daniel Kretinsky les a, ce qui n'empêche pas qu'il voudra sûrement découper ou vendre des actifs, avec un actionnaire plus petit, si c'est David Layani qui l'emporte, mais qui de toute façon ne pourra pas supporter tout seul.
Mais juste quand même, parce que sur le parallèle, sur la comparaison avec le dossier Casino, là on a des créanciers qui tiennent leur position.
Pour le moment. Chez Casino, vous vous souvenez que sur Casino, les créanciers avaient commencé par choisir le trio qui était qualifié d'industriel, parce que c'était le cas, comme David Layani sur Atos, avec M. Zoari et M. Ni à l'Epigas, et puis ils ont changé d'avis 48 heures avant. Écoutez, on est dans le monde financier, Il faut prendre beaucoup de précautions par rapport à ce que dit tout le monde.
On est plus dans le monde financier que dans le monde industriel.
Pour l'instant, oui. C'est une frustration de Frédéric Simotel qui était là.
Mais ça, je pense que c'est la grande erreur, à chaque fois, de mettre en avant les arguments industriels alors qu'on est dans une restructuration financière.
Oui, mais quand on regarde la position des banques, et qu'elles soient françaises ou étrangères, mis à part la BNP qui a des intérêts autres avec Kretinsky, elles sont toutes en faveur de One Point.
Pour le moment.
Pour le moment.
Et quelle sera la marge de manœuvre de l'État?
Je pense que c'est un moyen aussi de mettre la pression sur Daniel Kretinsky.
Quelle sera la marge de manœuvre de l'État pour peser sur le cours des choses, Mathieu? Finalement, elle est nulle. Si on va entendre Bruno Le Maire encore gesticuler, on va se rapprocher de l'échéance du 31 mai.
Les créanciers votent, mais il y a quand même... Enfin, on est quand même dans une procédure de conciliation sous l'égide, un, de l'administratrice judiciaire, et deux, le plan qui sera validé, qui doit être validé par le tribunal de commerce, le comité interministériel de restructuration industrielle, qui est une cellule puissante à Bercy, au ministère de l'économie, pèse aussi. Donc, il y a ce triumvirat qui, quand même, décidera. Donc, moi, je ne peux pas m'empêcher, quand même, que le portable de Bruno Le Maire sonnera beaucoup quelques jours avant la décision, évidemment.
Et bien, demain, c'est une étape importante, hein, c'est ça qu'on veut dire.
Et bien, tout ça va encore nous agiter pendant encore...
Plusieurs semaines.
Moi, la grande joie d'Emmanuel Le Chypre.
Oui, qui finira bien par s'intéresser au dossier.
Par le dossier.
Ça va venir, hein, ça va venir.
Non, ça n'est pas que ça ne m'intéresse pas.
Non, c'est vrai, ça, oui, ça m'intéresse.
Ça m'intéresse beaucoup, mais je n'ai pas les moyens matériels de m'y investir pour dire des choses intéressantes, aussi pertinentes qu'Edwige
Et Mathieu.
Nous entendons cet argument. Bien, merci à tous d'être passés ce soir, 18h56. Pascal Delima qui va revenir tout à l'heure à 19h15 avec nos experts. Merci Emmanuel, à demain. Merci Mathieu. Edwige, à demain, 18h10 également, en direct sur BFM Business. 18h57, nous revenons.
Eh oui, on est ensemble en direct jusqu'à 20h. À tout de suite.